Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour cette édition de Votre Santé, Votre Avenir sur VOA Afrique. Devant ce microphone, Nanite Talani. Cette nouvelle rencontre est la seconde partie de notre série consacrée à l'accident vasculaire cérébral. C'est une défaillance de la circulation du sang qui affecte le cerveau à la suite de l'obstruction ou de la rupture d'un vaisseau sanguin, provoquant la mort des cellules nerveuses qui sont privées d'oxygène et des éléments nutritifs essentiels à leur fonction. Aujourd'hui, nous nous focaliserons sur les conséquences d'un AVC sur la vie des malades, mais aussi le traitement et les moyens de prévenir cette maladie. Le professeur Christian Napon nous rejoindra pour en discuter.
Il y a des personnes qui font des AVC de petite taille, donc c'est pas très étendu. Ce type d'AVC récupère très facilement avec de la rééducation.
Le professeur Christian Napon est neurologue et chef de service de neurologie au CHU de Bogodogo à Ouagadougou. Il est également enseignant-chercheur à l'université Joseph Kizerbo au Burkina Faso. Il expliquera aussi la prise en charge et le processus de guérison des AVC.
Il y a des personnes qui font des AVC de petite taille, donc c'est pas très étendu. Ce type d'AVC récupère très facilement avec de la rééducation.
Après cet entretien, nous vous proposerons en seconde partie carnet de santé présenté par Linor Moudou. Votre santé, votre avenir, l'invité de la semaine. Voici le moment d'écouter l'interview que nous a accordé le professeur Christian Napon. Bonsoir, professeur Napon.
Bonsoir, madame.
Aujourd'hui, c'est la deuxième partie de notre série consacrée aux AVC et notamment, nous allons parler du traitement, de la prévention et des conséquences. Mais juste en peu de mots, est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs quelles sont les causes principales de l'AVC?
L'accident vasculaire cérébral a plusieurs causes. Il y a deux types d'accidents vasculaires cérébraux et les causes ne sont pas les mêmes. Quand on prend les accidents vasculaires cérébraux ischémiques, il y a généralement trois organes qui sont touchés, c'est soit le cœur, soit les vaisseaux, ou soit le sang. Donc, ça peut être donc une maladie cardiaque avec la fabrication de caillots qui va provenir du cœur, parce que le cœur n'arrive plus à faire son activité normalement. Et ce caillot donc va migrer dans la circulation sanguine et va monter au niveau du cerveau. Et quand le caillot va rencontrer un vaisseau qui est de plus petit calibre que lui, il va le boucher et ça va entraîner l'AVC ischémique. Dans les maladies sanguines comme la drépanocytose ou bien les cancers du sang, on peut avoir une augmentation de la viscosité du sang qui fait que la fluidité du sang manque et donc le sang qui est acheminé au niveau du cerveau n'a pas un bon débit. Et donc, du coup, le cerveau en prend un coup et puis c'est l'accident vasculaire cérébral qui arrive. Ou alors, il peut s'agir, et le plus souvent, c'est une maladie des vaisseaux. On parle de l'athérosclérose qui est due au cholestérol et qui est due à d'autres facteurs de risque dont on avait parlé la dernière fois, à savoir l'hypertension artérielle, le tabagisme, le diabète, l'inactivité physique. Et cette athérosclérose est responsable d'environ 70% des causes d'accidents vasculaires cérébraux ischémiques. Quand on prend les accidents vasculaires cérébraux hémorragiques, ces accidents vasculaires, là aussi, ont des causes. C'est essentiellement les malformations vasculaires, c'est-à-dire qu'on peut naître avec un réseau vasculaire cérébral qui n'est pas de bonne qualité et qui va se rompre à un certain âge donné. Ou alors, il peut s'agir également des conséquences de l'hypertension artérielle. Donc, vous voyez qu'il y a quand même l'hypertension artérielle qui intervient dans les deux types d'AVC. L'hypertension artérielle va induire de façon chronique une fragilisation des vaisseaux qui sont à l'intérieur du cerveau. Et si rien n'est fait pour corriger cette hypertension artérielle, à la longue, les vaisseaux vont se rompre et il y aura l'hémorragie. Et ça également, c'est un peu la cause de la grande majorité des accidents vasculaires cérébraux hémorragiques.
Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il existe un traitement ou des traitements contre les accidents vasculaires cérébraux?
Les traitements ne seront pas les mêmes selon qu'il s'agisse d'un AVC ischémique ou d'un accident vasculaire cérébral hémorragique. Bon, alors quand on voit le patient à la phase aiguë, ce qui est important de faire, c'est d'éviter justement que le patient ne se complique ou qu'il ne refasse une récidive. Donc, on va prendre en charge On va chercher donc à sauver tout ce qui est vital. Donc il sera important que le patient soit déjà mis en milieu neurologique où il sera possible de surveiller sa tension artérielle, son état de conscience, les autres paramètres, donc à savoir le pouls, ainsi de suite. Donc c'est pour dire qu'il faut essayer de prendre en charge les symptômes qui accompagnent donc cet AVC. Pour ce qui est de la paralysie, qui est le principal symptôme, il va falloir faire de la rééducation. C'est une rééducation qui doit se poursuivre même lorsque le patient va sortir de l'hôpital. Alors, certains patients peuvent récupérer rapidement. C'est les patients qui auraient eu, dès le départ, une paralysie, c'est-à-dire pas une paralysie complète, mais une paralysie, c'est-à-dire qu'une paralysie partielle. Et les patients qui seront paralysés de façon très importante, parfois vont garder en séquelles donc une certaine invalidité au niveau donc du membre qui a été touché. Comme on sait que le principal facteur de risque, c'est l'hypertension artérielle, si c'est un patient qui ne se savait pas hypertendu, c'est de pouvoir diagnostiquer cette hypertension artérielle et la prendre en charge le plus tôt possible pour éviter justement qu'il y ait des récidives.
Adis Mikaelou Tassembedo, depuis le Burkina Faso, veut savoir comment éviter un accident vasculaire cérébral.
On a dit que les accidents vasculaires cérébraux avaient des facteurs de risque. Et pour se prémunir des accidents vasculaires cérébraux, c'est de pouvoir connaître les facteurs de risque et pouvoir lutter contre ces facteurs de risque. Et comme je l'avais dit, en fait, on se trouve devant une situation où on a d'une part des facteurs de risque dits non modifiables, c'est-à-dire l'âge, le sexe, la race, pour lesquels on n'a pas beaucoup d'action. On ne peut pas modifier son âge, on ne peut pas modifier sa race, mais il y a des facteurs de risque modifiables et c'est ceux sur lesquels on va agir pour minimiser en tout cas le risque de faire un AVC, c'est-à-dire l'hypertension artérielle, le tabagisme, le diabète, l'inactivité physique, les dyslipidémies, l'obésité, chez les femmes l'usage des contraceptifs oraux, la sédentarité. Donc il faut lutter contre ce genre de comportement. C'est-à-dire qu'il faut avoir une activité sportive. Si on est obèse, il faut maigrir. Si on a une hypertension artérielle, il faut équilibrer la tension artérielle, la ramener donc à des chiffres normaux. Si on est diabétique, il faut tout faire pour que la glycémie puisse se normaliser. Voilà comment on peut se prémunir d'un accident vasculaire cérébral.
Dans les moyens de prévention, vous avez évoqué la cigarette. Et nous avons un auditeur, Abdul Malik Guira. Lui veut savoir s'il y a un lien entre l'AVC et la cigarette. Il dit, est-ce que l'AVC peut être causé par la cigarette?
Oui, j'avais dit tantôt que le tabagisme est un facteur de risque d'accident vasculaire cérébral. Et le tabagisme multiplie par 3 le risque d'avoir un accident vasculaire cérébral. Donc, c'est vraiment, effectivement, par excellence, un facteur de risque d'AVC, la consommation donc de tabac. Et de plus en plus, on le voit dans notre pratique quotidienne avec des jeunes patients qui nous font des AVC et dans leurs antécédents, on se rend compte que c'est des gros fumeurs, c'est des gens qui fument 1 ou 2 paquets par jour et depuis plusieurs années.
Il y a aussi Abdourahmane Darayawa, il appelle depuis le Niger. Il demande si des médicaments contrefaits d'origine douteuse qui inondent principalement le marché africain peuvent être aussi la cause des AVC.
On est en droit de penser que ce type de médicaments puisse être incriminé, peut-être pas tout seul, mais effectivement, par toxicité. Ça peut être toxique pour les vaisseaux. Et notamment donc les amphétamines, en fait ce type de médicaments que les gens utilisent pour essayer d'avoir une certaine énergie, une certaine vigueur, et qu'ils prennent à longueur de journée sans, on ne sait pas trop, c'est dosé comment, et les gens en abusent. On se demande effectivement si ça ne joue pas un rôle, et je crois que certains d'entre eux en tout cas ont montré, selon les études, qu'ils avaient un impact sur le risque de survenue d'accidents vasculaires cérébraux.
Est-ce que quelqu'un qui a été victime d'un AVC peut vraiment guérir de cette maladie?
Quand on dit accident vasculaire cérébral, ce qu'on nous dit d'ajouter, c'est qu'on dit accident vasculaire cérébral constitué. C'est-à-dire qu'au moment où survient l'accident vasculaire cérébral, c'est déjà constitué. Donc ça veut dire qu'il y a déjà une lésion au niveau du cerveau. Et cette lésion reste indélébile toute la vie du patient seulement. parler de guérison. Est-ce que c'est guérison par rapport à la lésion? Si c'est guérison par rapport à la lésion va rester. Même plus tard, quand on refait un peu l'imagerie, on va se retrouver avec la même lésion qui va se transformer en cicatrice. Donc, de ce point de vue, il est difficile de dire qu'on est guéri. Sur le plan des manifestations, notamment de la paralysie, il est possible de récupérer complètement de sa paralysie. Il y a des personnes qui font des AVC de petite taille. C'est pas très étendu. Et ce type d'AVC récupère très facilement avec de la rééducation. Alors donc, c'est pour dire qu'on peut récupérer totalement de son AVC sur le plan des manifestations physiques, mais sur le plan anatomique, la lésion que l'AVC a laissée, elle demeure.
Alors, professeur...
Mais le cerveau, oui.
Non, allez-y, s'il vous plaît.
Le cerveau est... disons qu'on sait que le cerveau est plastique. Avant, on pensait que le cerveau, une fois que vous avez une lésion dans le cerveau, elle reste figée. Mais on s'est rendu compte que le cerveau est plastique. C'est-à-dire que lorsqu'on stimule la personne donc à l'aide donc, de la rééducation, il y aura donc un réaménagement des cellules nerveuses au niveau du cerveau qui vont établir d'autres connexions avec d'autres cellules pour permettre de prendre le relais de cette zone qui ne fonctionne plus. Et c'est pour cela que lorsque le patient est soumis à des stimulations au travers de la rééducation, et on est surpris, pas totalement surpris, mais on est heureux de voir que ce patient peut récupérer donc de sa paralysie. Mais encore une fois, ce n'est pas chez tout le monde.
Cette lésion que l'AVC va laisser, est-ce qu'elle aura des conséquences sur la vie du malade?
C'est comme une plaie que vous avez sur la peau, et à la longue, ça va laisser une cicatrice. Donc c'est une marque qui montre qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé, mais cette marque n'a plus d'emprise sur le patient. Sauf qu'il y a quand même ce qu'on appelle l'épilepsie vasculaire, qui est la survenue de crise. Ça, c'est pas chez tout le monde, mais 3 à 6 mois après un AVC, il est possible d'avoir ce qu'on appelle des crises épileptiques liées à la cicatrice de l'AVC. Mais c'est encore une fois, c'est pas chez tout le monde que ça arrive.
Et dans ces conditions, il n'y a rien à faire?
Si, on peut utiliser ce qu'on appelle des anti-épileptiques. Et très souvent, ça marche bien et le patient... est libre donc de toute crise après un bon traitement à base d'antiépileptiques.
Mais cela signifie aussi que tous les patients ne récupèrent pas de la même façon ni avec le même rythme.
Exactement. Il y a la susceptibilité personnelle de tout un chacun. Il y a également, je disais tantôt, le type d'AVC. Il y a également l'étendue de l'AVC. Il y en a qui font des petits AVC. Eux, ils ont la chance de pouvoir récupérer même totalement. Mais alors, il y a d'autres qui vont faire un AVC qui va intéresser la quasi-moitié du cerveau. Alors, pour ce type de patient, c'est improbable qu'il y ait une récupération totale. Ce sera peut-être une récupération partielle. Et encore une fois, il y a certains patients aussi qui ne récupèrent pas du tout. Ça peut arriver. Et il faut dire qu'avec l'âge, plus on est avancé en âge, plus les capacités à récupérer diminuent. Plus on est jeune, plus nos capacités à récupérer sont élevées.
Et dans le cas des patients qui ne récupèrent pas du tout, qui récupèrent à long terme, à quels soins ces personnes sont-elles soumises?
Il n'y a pas une fin à la rééducation, à la kinésithérapie. Je pense que tant qu'il y a la vie, tant qu'il est possible de faire de la rééducation, il n'y a pas un terme à cela. On ne peut pas dire que parce que j'ai fait de la rééducation pendant une année, je n'ai pas eu gain de cause, je m'arrête. Non, il faut continuer. On peut finir par... acquérir une certaine autonomie, quoique partielle, en continuant donc les efforts. Et en plus, en le faisant, on entretient donc ces muscles paralysés et ça évite donc d'autres complications, notamment ce qu'on appelle des rétractions tendineuses, souvent très douloureuses, qui peuvent entraîner un mauvais confort de vie aux patients.
Professeur Napon, quels sont les soins que des membres de la famille ou des amis proches peuvent apporter à une personne qui est victime d'un AVC ou une personne qui se remet de cette maladie?
Oui, alors je pense que ce que vous abordez est très important parce que la famille a un rôle central dans la prise en charge des AVC, des accidents vasculaires cérébraux, parce qu'il faut dire qu'on a fait une étude qui montrait que 40 à 60% des patients développaient à la suite de leur AVC une dépression. Une dépression parce qu'ils se sentent diminués, ils sentent qu'ils ont un sentiment d'infériorité parce que et ils ont perdu l'usage d'une partie de leur corps. Ils n'arrivent plus à signer les chèques, enfin, pour les salariés, ils n'arrivent plus à aller à la banque, etc. Et donc, ça pose un problème. Et la famille doit jouer ce rôle de soutien, doit pouvoir accompagner le patient, doit pouvoir encourager le patient, le comprendre au quotidien, afin de l'amener, parce que si le patient est découragé parce qu'il y a une dépression qui est arrivée, il ne fera même pas d'effort pour récupérer de sa paralysie parce qu'il est découragé, parce qu'il est triste. Donc la famille doit jouer un rôle de soutien, c'est très capital.
Quand un malade ne récupère pas vite, est-ce qu'on doit le considérer comme un cas désespéré et juste l'abandonner, ou il y a toujours quelque chose qu'on doit faire ou espérer?
Il ne faut jamais abandonner le malade. Parce que comme je l'ai dit tantôt, il n'y a pas un délai au bout duquel on va dire qu'on ne fait plus rien. Tant que le patient est vivant, il y a toujours quelque chose à faire. Et la prise en charge, elle est pluridisciplinaire. Elle incombe à la famille, elle incombe aux amis, elle incombe aux médecins, elle incombe au personnel soignant, personnel paramédical, personnel médical, kinésithérapeute. Et tout ceci, tout ce qui gravite autour du patient doit jouer un rôle dans sa prise en charge. Et pour que le patient puisse récupérer, tant au plan fonctionnel, c'est-à-dire au niveau déficit de sa paralysie, qu'au plan psychologique, eh bien, il faut donc que cette prise en charge-là soit pérenne, qu'il n'y ait pas un temps délimité pour dire que parce qu'au bout d'un certain temps, il n'y a pas eu d'amélioration, on laisse le patient.
Est-ce qu'au cours de votre vie professionnelle, vous avez déjà eu des cas, des malades qui semblaient des cas désespérés, mais qui subitement ont récupéré et ont eu une vie à peu près normale?
Il peut arriver effectivement qu'il y ait des cas qui récupèrent. Mais il faut dire que, comme je l'ai dit tantôt, il faut rester objectif dans la mesure où, comme je l'ai dit, tout n'est pas seulement dans la récupération. Il faut que le patient vive sa vie étant quand même dans un certain élan de vie, envie de vivre et tout ça. Il y a des patients qui ne vont pas récupérer, mais ce n'est pas pour autant que la vie s'arrête. Il faut qu'on essaie de lui apporter un réconfort. Je suis paralysé, mais peut-être que je peux encore parler, je peux encore m'exprimer, je peux encore communiquer avec les autres, en sachant qu'il y a des cas d'AVC qui ont à la fois la paralysie et également la difficulté pour parler. Les cas d'aphasie où le patient n'arrive plus à s'exprimer, ou même n'arrive plus à comprendre ce que les uns et les autres disent. Alors là, c'est le cas encore plus dramatique. Parfois, on se demande même si il n'est pas mieux d'avoir une paralysie que d'avoir perdu le langage ou perdu la compréhension du langage, ce qui vous coupe du monde qui gravite autour de vous.
Un auditeur, Ben Benoît Kabé, il est de la RDC. Il veut savoir pourquoi l'AVC est devenu une maladie si courante en Afrique et surtout chez les vieux. Qu'est-ce qui est à la base de cette crise neurologique?
On avait parlé de la transition épidémiologique, la transition démographique, c'est-à-dire qu'on se rend compte qu'avec l'occidentalisation de nos habitudes de vie, nos habitudes alimentaires, les pathologies qu'on retrouvait en Occident vont être ceux-là qu'on va retrouver en Afrique. Notre régime alimentaire n'est plus celui qu'on avait avant donc l'arrivée de ceux qui nous ont colonisés. Nous avons adopté le régime alimentaire occidental. Nous avons adopté le style de vie occidental. Il est normal que ce qui n'était pas courant dans notre contexte le soit actuellement. Voilà ce que je peux dire pour résumer.
Professeur, si vous avez un conseil à donner à nos auditeurs concernant la prévention, quel serait ce conseil-là?
Alors, merci pour cette question. Le conseil, c'est, comme je l'ai dit, je le répète, c'est la prise en charge des facteurs de risque vasculaire. Et le premier d'entre eux, c'est l'hypertension artérielle. On dit que l'hypertension artérielle, c'est le tueur silencieux, silent killer. Parce que, en général, on peut avoir l'hypertension artérielle sans le savoir. Donc, il est important que, au moins une fois par an, ou bien une fois par semestre, on puisse avoir le réflexe d'aller prendre sa pression artérielle pour dépister une éventuelle hypertension artérielle qui, une fois dépistée, on a des médicaments pour normaliser cette hypertension artérielle parce qu'elle est source, comme on l'a dit, de beaucoup de complications, dont les accidents vasculaires cérébraux. Mais à côté de ça, il y a également le diabète, c'est un problème de santé publique. Il y a parfois des signes, mais parfois il n'y en a pas. Donc il faudrait aussi avoir le réflexe de faire sa glycémie pour rechercher donc une éventuelle élévation du glucose dans le sang Et lorsque c'est le cas, trouver les moyens, donc, en consultant un médecin pour qu'on puisse normaliser la glycémie. Et puis, donc, les autres facteurs, étant jeunes, en Afrique, nous avons beaucoup de jeunes, il faut vraiment mettre l'accent sur le sport. Mettre l'accent, on dit au moins deux ou trois fois par semaine, 30 minutes de marche, ça suffit largement pour se mettre à l'abri. Et donc, faire attention donc, à tous ces médicaments de la rue qui entraînent donc, des désastres dans nos sociétés.
Merci beaucoup, professeur, d'avoir été notre invité.
Merci.
Vous suivez Votre Santé, Votre Avenir sur VOA Afrique. C'était notre entretien avec le professeur Christian Napon. Vous allez maintenant écouter Carnet de Santé qui vous est présenté par Linor Moudou.
Cette semaine dans Carnet de Santé, un regard sur l'épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo. Le saignement des gencives, quand faut-il s'en inquiéter? Et enfin, de nouvelles découvertes incitent les scientifiques à repenser ce qui fait de nous des êtres humains. C'est dans cette édition de Carnet de Santé.
Bienvenue à tous, merci de nous rejoindre sur Carnet de Santé. Aujourd'hui, nous jetons un regard sur la maladie à virus Ebola. Infection grave et souvent mortelle, la maladie se propage par le contact avec des liquides corporels ou du sang infecté. Depuis août dernier, une épidémie d'Ebola s'est déclarée dans l'est de la République démocratique du Congo. C'est la 10e fois que l'épidémie sévit dans le pays. En Ouganda, les autorités sanitaires et l'Organisation mondiale de la santé déploient tous les efforts nécessaires afin de protéger la population contre la maladie à virus Ebola après l'introduction du virus dans le pays. Reportage à Lima Atumani.
L'agent de santé ougandais Masirika Robinson se rend tous les jours à pied au sous-comité de Kisenga pour informer les familles sur le virus Ebola, y compris la famille qui aurait introduit le virus mortel dans le pays. La visite à un parent infecté en République démocratique du Congo voisine a coûté à cette famille un enfant et une grand-mère. Les agents de santé ougandais mènent une campagne de vaccination avec l'aide de l'Organisation mondiale de la santé.
Maintenant, avec l'épidémie, et nous donnons à nouveau le vaccin aux agents de santé, en particulier à ceux qui auraient pu le rater la dernière fois. Nous leur donnons donc le vaccin ainsi qu'à tout autre agent en première ligne, pas nécessairement aux travailleurs médicaux, mais toute personne ayant eu contact avec le virus Ebola.
L'Ouganda a vacciné près de 5000 agents de santé. Même si les hôpitaux, les centres de dépistage et de traitement se disent prêts à lutter contre le virus Ebola, ils ne disposent pas des fournitures médicales nécessaires. Les agents de santé ont mis en place une unité d'isolement à l'hôpital de Mbouira où deux infirmières ayant été en contact avec la famille infectée sont surveillées. Les agents de santé en Ouganda espèrent que les vaccinations et les efforts de dépistage renforcés seront suffisants pour empêcher le virus de se propager davantage.
Pour en savoir un peu plus, nous avons avec nous le docteur Malonga Miatudila. Il est spécialiste en santé publique et consultant international. Docteur Miatudila était l'un des docteurs présents lors de la découverte du virus Ebola en 1976. Docteur Miatudila, merci de nous rejoindre. Pouvez-vous nous rappeler avec un peu plus de détails comment est-ce que une personne peut avoir le virus Ebola?
Eh bien, d'abord, le virus se trouve dans la forêt. C'est le virus vit en symbiose, donc en harmonie avec des chauves-souris.
Ok.
Et puis de temps en temps, les chauves-souris arrivent à infecter des animaux qui habitent dans la forêt, les antilopes ou les singes. Et alors l'homme entre en contact avec ce virus en faisant de la chasse, en mangeant des chauves-souris.
Des animaux infectés. Oui.
Une fois que l'individu qui est allé chercher le virus dans la forêt revient au village, il tombe malade 7 à 9 jours après avoir été en contact avec le virus.
D'accord.
Et à ce moment-là, c'est lui maintenant qui va commencer maintenant à infecter les autres membres de la communauté.
Et ça, cette infection se fait lorsqu'une personne touche une autre personne.
personne qui est infectée.
Eh bien, il faut que ce contact soit assez intime. C'est pas seulement en saluant quelqu'un qui a Ebola qu'on attrape ça. Il faut vraiment être en contact avec les fluides, la sueur,
le sang. Et maintenant, pour parler des symptômes, à quel moment, quels sont certains des symptômes qui peuvent indiquer que quelqu'un est infecté et à quel moment il faudrait vraiment penser à se rendre dans un centre de santé?
Eh bien, au début, c'est un peu difficile, surtout dans les pays où la malaria existe de façon endémique. Parce que 7 à 9 jours après avoir été en contact avec le virus, la personne sent qu'il a présenté des symptômes de malaria. Maux de tête, un peu de fièvre. Et généralement, le 13e, le 14e jour, c'est la mort.
Et nous avons Alphonse Mbois qui nous écrit de la RDC avec cette question sur Facebook. Lorsque quelqu'un attrape Ebola, docteur, quel traitement suit-il pour guérir de cette maladie?
Malheureusement, Ebola est un virus. Et jusqu'à présent, on n'a pas encore un antiviral efficace contre Ebola. Il y a un vaccin qui est à l'étude, mais pour dire la vérité, on n'a pas encore un traitement sûr contre le virus d'Ebola.
Donc, docteur Malonga, merci de nous avoir rejoints. C'est tout le temps qui nous est imparti. Merci beaucoup. Si vous avez des gencives qui saignent spontanément au contact de la brosse à dents ou encore après l'utilisation du fil dentaire, vous vous êtes peut-être demandé si c'est grave ou pas. Nous avons posé la question au docteur Omoshibo Evelyn Echikena, présidente de l'Association dentaire nigériane.
Le saignement des gencives est grave lorsqu'il n'est pas traité. Il peut avoir différentes causes, comme par exemple une maladie sous-jacente. Les symptômes apparents peuvent être également liés à des facteurs autres qu'une maladie, un brossage trop vigoureux, une utilisation inadaptée du fil dentaire ou une érosion causée par les aliments. La gingivite est la cause la plus fréquente du saignement des gencives. C'est une maladie des gencives qui est causée par une accumulation de bactéries dans la plaque dentaire qui finit par irriter les gencives. Elle donne lieu à des rougeurs et à un gonflement des gencives pouvant entraîner des saignements. Sans traitement, ces saignements des gencives peuvent progresser vers une pathologie appelée parodontite, qui est une forme plus grave de maladie des gencives. La parodontite provoque un relâchement des ligaments parodontaux des dents, ce qui peut entraîner une mobilité des dents et éventuellement une perte. Donc, le saignement des gencives est une affection grave lorsqu'il n'est pas traité.
Vous l'avez compris, prenez soin de vos dents, restez fidèles à Carnet de Santé. Dans nos prochains épisodes, nous parlerons d'autres maladies et infections dentaires, ainsi que les toutes nouvelles technologies qui peuvent vous aider à avoir un plus beau sourire. De nouvelles découvertes incitent les scientifiques à repenser ce qui fait de nous des êtres humains. Une recherche estime que nous sommes humains seulement à 43% environ. Reportage d'Elisabeth Lee.
Ces scientifiques regardent ce qu'il y a dans les excréments d'une personne. C'est une fenêtre sur ce qui constitue plus de la moitié de l'être humain. Chaque personne est comme un immeuble qui abrite une variété de micro-organismes invisibles à l'œil nu. Les bactéries existent, on le sait, les virus aussi, les champignons également dans des endroits comme la bouche, la peau et les intestins. Mais ce n'est que depuis quelques années que les scientifiques ont réalisé que la bactérie intestinale de chaque personne est unique et que celle-ci peut avoir un impact important sur la santé, notamment sur son poids et le risque de maladies cardiaques. Les microbes dans votre intestin peuvent même affecter votre humeur.
Dans notre prochaine édition de Carnet de Santé, nous parlerons des blessures sportives et comment les éviter. Si vous avez des questions ou pour vos réactions, rejoignez-nous sur notre page Facebook VOA Afrique ainsi que sur notre site web voaafrique.com. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter @linormoudou. C'est la fin de notre émission. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.
C'est C'est ici que s'achève Votre santé, votre avenir. Ce magazine était centré sur les conséquences d'un AVC sur la vie des malades, le processus de guérison et les moyens de prévenir cette maladie. Nous en avons discuté avec le professeur Christian Napon, neurologue et chef de service de neurologie au CHU de Bogodogo à Ouagadougou. Il est aussi enseignant-chercheur à l'université Joseph Kizerbo au Burkina Faso. Vous avez également écouté Carnet de santé avec Linor Moudou. Ce rendez-vous santé a été réalisé grâce au concours de Cheikh Thiérot. Il était présenté par Nanit Talani. Continuez d'écouter VOA Afrique et surtout, n'oubliez pas de prendre soin de votre santé, car votre santé, c'est votre avenir.
C'était Votre santé, votre avenir, une production de VOA Afrique. Pour vos commentaires, vos questions ou vos témoignages, retrouvez-nous sur voafrique.com ou sur notre page Facebook VOA Afrique.
VOA Afrique.